Il est midi 6, merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez très précisément l'Alpha 10-13. Il est maintenant l'heure de notre rubrique mensuelle de santé, la santé d'abord. Je suis Didier Carmalo et je suis aujourd'hui en compagnie d'Audrey Dangerosse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Charlotte Lafont, bonjour.
Bonjour à tous.
Jocelyne Juster, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Suzette Fernandez.
Bonjour.
Vous êtes respectivement chargée de projet, médecin de santé publique, responsable, expérience patient, responsabilité sociale, environnement et développement durable, et enfin, représentant d'usagers, collaboratrice santé de Radio Alpha. Merci beaucoup de vous être déplacée jusqu'ici. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses, de plusieurs initiatives. L'hôpital sans tabac, par exemple, moins sans tabac, et le tabagisme de façon plus globale. Ma première question sera très simple. Quelles sont les idées reçues sur le tabagisme ?
On ne peut pas arrêter de fumer. C'est trop difficile.
C'est surtout qu'on a besoin de cigarettes quand on est fumeur et qu'on est persuadé que ça nous calme les nerfs et ça nous soulage dans nos angoisses. Mais c'est quand on est fumeur. C'est une ancienne fumeuse qui parle et je m'aperçois qu'après, une fois qu'on ne fume plus, c'est plus tout à fait la même chose.
Ou encore, c'est pas encore le moment d'arrêter, plus tard, je vais réfléchir.
Moi j'ai entendu aussi beaucoup de femmes qui disent « non, si j'arrête, je vais grossir ».
Oui, mais sinon, j'entends, je fume que une ou deux cigarettes, il n'y a pas d'effet. Je suis une petite fumeuse, je peux arrêter quand je veux.
Ce sont les idées reçues que vous entendez le plus au quotidien.
Oui.
Et tout cela est faux.
Tout cela est surtout un prétexte à ne pas s'engager dans l'arrêt du tabac, parce que c'est une addiction, le tabac. Et une addiction, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler sur soi pour arriver à arrêter de fumer. Donc, faut pas faire croire non plus qu'arrêter de fumer, se passer de cette nicotine qui nous pénètre, est quelque chose de facile. Beaucoup de femmes, entre autres, arrêtent à l'occasion des grossesses, mais pour autant reprennent après la fin de l'allaitement, ou des personnes arrêtent en cas de maladie, voire d'autres, parce que malade, se mettent à fumer, parce qu'angoissé. Donc c'est, il n'y a pas de règles fondamentales. Le tabac, c'est une addiction et il faut la traiter comme une addiction, comme une maladie addictive.
Et chaque cas est un cas unique ? Il n'y a pas de cas d'école ?
Chaque cas est un cas unique.
Chaque personne a son histoire, son vécu, son ressenti par rapport au tabac. Et donc ensuite, il faut trouver la bonne façon d'accompagner chaque personne pour aller au bout de la démarche. Mmh. Et également, chaque personne n'a pas forcément les mêmes objectifs a priori. Et voilà, certains vont dire, je vais d'abord essayer de diminuer, d'autres, je vais arrêter d'emblée. D'autres vont me dire, j'ai déjà tenté, par exemple, les substituts, donc je sais que ça ne me convient pas, je vais me tourner vers autre chose. Voilà, donc c'est vraiment une approche globale qu'il faut avoir, je pense, auprès de chaque personne pour essayer d'aller au bout de tout ça.
Mais Audrey, qui consulte, a bien toutes ces personnes très différentes qui viennent parce qu'elles ont envie d'arrêter. Parce qu'un fumeur, au fond de lui-même, il a envie d'arrêter.
C'est d'abord une question de volonté, donc.
En fait, il faut un petit peu de volonté. Il faut vouloir arrêter de fumer, parce qu'on ne va pas convaincre quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt d'arrêter de fumer. Après, par contre, la nicotine, c'est un des plus forts taux d'addiction. Ça dépasse même l'héroïne. Elle monte en 7 secondes au cerveau. Donc, c'est une vraie addiction, c'est une vraie dépendance. Mais il faut quand même un petit peu de volonté pour pouvoir. Enfin, il faut engager en fait la démarche et après se faire accompagner. Alors en fait, quand on est en manque de nicotine, c'est un réel manque. Donc le cerveau, il va envoyer un message, je veux de la nicotine, je veux de la nicotine, je veux de la nicotine. Mm-hmm. Donc l'effet qu'ils vont avoir de détente, c'est qu'ils vont répondre à ce message-là quand ils vont fumer leur première cigarette. Donc oui, ça va les détendre parce qu'il n'y aura plus cette petite voix qui va dire, je veux de la nicotine, je veux de la nicotine. Ça va détendre, mais en fait non, ça augmente le pouls, ça augmente la fréquence cardiaque et ça fait l'effet inverse que l'effet zen. Mais l'effet zen qu'ils reçoivent, c'est vraiment parce qu'ils ont apporté de la nicotine et donc là, ça détend le cerveau, il ne va plus avoir cette petite phrase qui se répète.
En fait, ça déplace le problème.
C'est ça.
Une question très simple qui en même temps est très vaste, mais j'imagine qu'il y a bien une méthode. Comment arrêter de fumer ? Je suis fumeur, demain j'ai envie, la volonté est là. Comment je commence et par où ?
Alors, il y a des personnes qui vont dire qu'ils ont arrêté tout seuls. Ils ont tout lâché, ils ont jeté le dernier paquet, ils n'ont rien fait et ça marche. Donc vraiment, moi je dis qu'il y a plusieurs méthodes. Moi, celle que je conseille, comme je suis infirmière de formation, c'est l'accompagnement. Donc avec les substituts nicotiniques et avec les formes orales de substituts nicotiniques pour pouvoir, en fait, travailler sur les habitudes comportementales parce que c'est vraiment une dépendance vraiment physique par rapport à la nicotine, une dépendance comportementale avec les habitudes de vie, et tout ce qui est intérêt. Et il y a une troisième dépendance, c'est plus sociétal, on va dire, parce qu'on on commence jamais derrière à fumer tout seul. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là à prendre. Et donc quand on a les substituts nicotiniques qui sont bien dosés, je rappelle, parce que souvent on me dit « oui, mais j'ai essayé le patch, ça fonctionne pas ». Il faut vraiment adapter par rapport à la nicotine. Une fois que ça, on a ça, on peut travailler sur les habitudes comportementales et changer un peu au niveau de ça. Et après, il y a d'autres personnes qui d'abord diminuent, qui font 2-3 cigarettes avec les substituts nicotiniques, d'autres qui cèdent avec les cigarettes électroniques ou vapoteuses. Enfin, il y a plusieurs méthodes de fonctionnement pour arrêter de fumer. Et puis, il y a aussi tout ce qui est acupuncture, hypnose et autres. On me demande souvent si ça fonctionne ou pas. Je dis, c'est personne dépendant. Essayez et vous verrez si ça fonctionne.
Mais est-ce vraiment possible d'arrêter seul?
Oui. Oui.
J'en suis un exemple.
Racontez-nous.
Moi, je me suis arrêtée plusieurs fois dans ma vie et je considère que je suis toujours une fumeuse dans ma tête, même si je ne consomme plus du tout de tabac. Et je sais qu'il ne faut surtout pas que je retouche à une cigarette parce que ça redéclencherait tous les capteurs du cerveau en la matière. J'ai arrêté à chacune de mes grossesses, 2 fois donc. Ça, c'est facile parce qu'on sait pour qui on arrête. Et on se donne, on se donne bonne conscience, puisque après mes grossesses, j'ai recommencé à fumer et donc j'ai pollué mes jeunes enfants parce qu'on était dans une époque où dans les années 80, on n'était pas encore aussi initié à tous les méfaits du tabac. Et donc, on fumait à la maison, on fumait en voiture, et ainsi de suite. Donc, ce que je ne leur ai pas fait ingurgiter en qualité de bébé dans mon ventre, ils l'ont subi en qualité d'enfant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils l'évoquent de temps à autre avec moi. J'ai ensuite arrêté une fois de manière assez longue, puisque là, j'ai arrêté avec des patchs. C'est une décision que j'ai prise seule. Enfin, je suis allée voir le médecin et je lui ai dit « je vais arrêter de fumer ». Il m'a prescrit des patchs à l'époque. Mon mari, qui était gros fumeur, a continué à fumer pendant 3 mois, tout le temps où moi, j'avais des patchs, et s'est arrêté quand moi, j'avais complètement cessé de porter des patchs et où je me sentais libérée de la cigarette. Et puis un jour, dans un événement malheureux de ma vie, je me suis dit, faut que tu refumes, t'as besoin de refumer. Et ce que j'aurais pas dû faire, parce que c'était encore plus compliqué à chaque fois d'arrêter de fumer. Donc c'est possible de s'arrêter seul par volonté ou par peur. Peur d'un accident, parce que... son papa est décédé d'un cancer ou un proche est décédé d'un cancer. Mais c'est certainement aujourd'hui autour de moi, et je le vois, beaucoup plus facile quand on est accompagné, suivi. Les structures existent, ce qui n'existait pas dans les périodes où moi je me suis sevrée, toute seule. Mais encore aujourd'hui, je vous dis, même si je n'ai plus touché une cigarette depuis 7 ans, de temps en temps, il y a des petits capteurs là-haut qui me disent « Oh, t'en fumerais bien une ?» Mais je dis non, je pense à autre chose, je vais ailleurs, je fais autre chose et ça passe. Ça passe très vite d'ailleurs. C'est des envies très éphémères, mais elles existent.
Et nous allons continuer à parler de tout cela dans un instant. Nous allons également revenir sur les initiatives Hôpital sans tabac, Moi sans tabac, et à répondre à plusieurs questions sur le tabagisme. J'en ai reçu quelques-unes à travers de notre WhatsApp, le 06 72 10 98 60. Mais pour le moment, nous allons marquer une courte pause. Radio Alpha. Jocelyne Juster, vous évoquiez à l'instant le rapport entre pollution et tabagisme. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Moi qui m'occupe du développement durable à l'hôpital, c'est même par ce biais-là qu'on est rentré dans l'hôpital sans tabac à l'hôpital, lié au fait de l'abandon des mégots partout, en dehors des cendriers, même si quand les cendriers existent. Donc c'est le mégot et notamment le filtre, mais un temps très important, c'est un élément de pollution très important. Pollution de l'eau, pollution environnementale d'une manière générale. Et en plus, nos patients, quand ils rentrent à l'hôpital, se plaignent quelquefois, voire souvent, de devoir passer dans un nuage de fumée. Alors, ils se plaignent de moins en moins, puisque notre action porte ses fruits. Mais traverser un nuage de fumée pour rentrer à l'hôpital était une critique majeure que nous avions encore il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, on travaille à réduire cette pollution environnementale.
Une première question qui m'est arrivée à travers de notre WhatsApp est la suivante. Un ami à moi a essayé d'arrêter de fumer. Il a subi des symptômes.
Alors, s'il n'a pas pris des substituts nicotiniques, il a dû ressentir des symptômes de manque. Donc, c'est-à-dire irritabilité, colère, anxiété, un espèce d'inconfort au quotidien. Ça peut entraîner aussi un peu de dépression, une petite déprime. Voilà, c'est vraiment des petites pertes de mémoire, un peu de difficulté de concentration. Tout ça, c'est vraiment les effets du manque lié au manque de la nicotine.
Ces effets durent longtemps ?
Ça dépend. Ça dépend des personnes. Ça dépend de la quantité de cigarettes fumées par jour. Vraiment. Et après, généralement, ça peut être très fort si, par exemple, les personnes fumaient un paquet par jour. Ça peut être un peu moins s'ils étaient à 5-6 cigarettes. Mais comme je disais tout à l'heure, la nicotine, c'est un fort pouvoir de dépendance. Et généralement, on conseille... on a vraiment plus d'effet de manque ou d'envie de fumer au bout d'un mois. C'est pour ça qu'il y a le mois sans tabac. En fait, ça a été fait sur les 4 semaines. Parce que si on commence à arrêter de fumer et qu'on se fait accompagner, au bout d'un mois, réellement, les gros marqueurs de manque, de sollicitations, je veux fumer, disparaissent au fur et à mesure.
Et on va commencer à parler des initiatives Mois sans tabac et Hôpital sans tabac dans un instant. Avant cela, vous évoquiez à l'instant l'idée de fumer un paquet par jour ou 2-3 cigarettes simplement. À partir de quand est-on fumeur ?
Une cigarette. Dès qu'on fume une cigarette, on a tous les effets liés à la cigarette.
Quelqu'un qui a fumé une cigarette au collège à 14 ans et qui n'a plus jamais retouché, est-il fumeur ?
Non, ça, pas dans ce cadre-là. Si vraiment c'est qu'une, et puis voilà, il a arrêté. Il a quand même eu les effets, puisque dans une cigarette, il y a les 4000 substances nocives. Donc, il a quand même eu les effets par rapport à cette cigarette-là.
Oui.
Il a eu la chance de ne pas continuer. Et par exemple, quelqu'un qui va dire « je fume qu'une ou deux cigarettes une ou deux fois dans le mois parce que c'est au moment festif ou autre », il a les effets du tabac.
Quelle différence existe-t-il entre la cigarette, la vapoteuse, la puff, ça a mille noms, et la chicha aussi d'ailleurs ? Il y a une différence, j'imagine.
Oui. Alors, au niveau de la cigarette normale de nicotine, généralement, on dit qu'à peu près une cigarette est égale à 1 mg de nicotine. Dans tout ce qui est cigarette électronique, vraiment, où on met, la personne met elle-même ses e-liquides. Alors, on peut mettre avec ou sans nicotine. Il y a 4 éléments dedans, si c'est vraiment des normes européennes. Donc, on conseille vraiment que les normes européennes, parce qu'américaines et malaisiennes, il y a plus d'agents chimiques. Et alors, tout ce qui est puff, en fait, là, on ne peut pas choisir le dosage de nicotine. Et donc, ils ont joué sur le pourcentage. Et si, par exemple, 2% dans une puff, ça correspond à peu près à 45 cigarettes au niveau de la nicotine.
Ce qui est énorme.
Oui, c'est énorme. Et après, tout ce qui est chicha, une séance de chicha, on se dit, c'est juste de la chicha, ça fait rien du tout. En fait, non, ça correspond à peu près, de mémoire, à entre 40 et 50 cigarettes pour une séance de chicha d'une heure, au niveau de la nicotine. Alors, on parle souvent de nicotine, parce que c'est ça qui crée la dépendance et c'est ça qui va nous amener à refumer la chicha ou les autres choses. Tout ce qui est puff, ça a été travaillé. Alors, nous, on déconseille parce que déjà, on ne peut pas doser la nicotine. Donc, quand on fait un sevrage tabagique, c'est un peu compliqué puisqu'il faut réduire par palier. Et surtout, la puff, elle a été créée pour les jeunes et ça ne faut pas. En fait, ce n'est pas fait pour les personnes qui n'ont pas fumé. Il n'y a pas assez d'études, il n'y a pas assez de recul. Ça va forcément avoir des conséquences et de toute façon, ça les amène à la dépendance à la nicotine. Parce que clairement, un jeune qui ne fume pas la cigarette est dépendant parce qu'il a de la nicotine dans la puff. Et les cigarettes électroniques, nous, par contre, on les utilise en substitut nicotinique aux personnes qui viennent me voir, par exemple, pour un sevrage tabagique, pour pouvoir apporter la nicotine et garder le geste, en fait, l'habitude comportementale. J'essaie de ne pas arrêter tout complètement, parce que ça serait trop compliqué. Donc, on enlève toutes les substances nocives de la cigarette, on garde la nicotine et au fur et à mesure, on diminue au niveau de ça.
Je rajouterais que, au niveau de la puff, on a aussi un problème de pollution environnementale, car les puffs, c'est du plastique. Ce sont des batteries au lithium, et généralement, les gens, au lieu de jeter ces puffs usagés et vides dans des réceptacles adaptés au tri, comme pour les piles, sont jetés dans les déchets ménagers et donc viennent polluer l'environnement et même dans les usines de traitement des déchets. Donc ça, il y a vraiment cet effet-là. Et puis, dans la cigarette, on parlait de la nicotine parce que ça rend dépendant, mais la cigarette, c'est aussi énormément de substances particulièrement toxiques et nocives qui, au-delà de la dépendance à la nicotine, vont générer tous les risques de maladies, notamment de cancer et autres.
Oui, 4000 substances nocives dans la cigarette. Et ça provoque 17 cancers. On a à peu près 15 000 tonnes de mégots de cigarettes jetées sur la France seulement. Et alors, il faut savoir qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Donc 15 000 tonnes, je vous laisse imaginer voilà, la pollution environnementale, rien que pour les mégots jetés voilà, sur la France hexagonale.
Par an ?
Oui, par an.
Une nouvelle question ici sur notre WhatsApp. Une auditrice qui nous demande « Mon voisin fume, que faire ?» J'imagine qu'ici, l'auditrice doit parler des effets de la fumée, je suppose.
Bah, en fait, le tabagisme passif, c'est ce qu'on appelle voilà, les fumées qui sont dégagées par les fumeurs. En fait, ça provoque le tabagisme passif. Et en fait, ça apporte une irritation et ça apporte au niveau pulmonaire 1,5 fois à peu près les effets qu'un propre fumeur va avoir. Donc en fait, on peut juste avoir le tabagisme passif et à développer un cancer du poumon plus tard si vraiment on est au quotidien avec des personnes qui fument. Après, il n'y a pas de loi, on ne peut pas interdire les gens de fumer malheureusement. Mm-hmm. Mais je lui conseillerais, si c'est par exemple s'il est sur le balcon et que ça s'infiltre, soit de voir si c'est un bailleur avec le bailleur pour des solutions d'isolation ou si c'est son propre logement, ben voilà, de qu'elle ferait mieux d'aller voir les gens calmement, dire que ben voilà. Moi, ça passe au niveau de chez moi. J'ai pas envie d'avoir, je ne fume pas. Si vous pouvez vous déplacer sur un autre endroit que ça toucherait pas mon logement, en tout cas.
Existe-t-il des groupes de soutien pour aider à cesser de fumer?
Oui, il y en a beaucoup. Il y a, ben, le premier, c'est Tabac Info Service, dont on voit la pub qui passe assez souvent pour Moi sans tabac. Donc, ils ont une application, ils ont un forum, on peut faire des consultations gratuites par téléphone. Après, il y a pas mal d'assurance mutuelle, de personnes aussi qui créent des groupes. Quand on tape tabac, voilà, sevrage tabagique, il y a pas mal de groupes aussi qui sont là de soutien et autres. Et après, ça peut être aussi sur son lieu de travail, peut-être que c'est suivi par la médecine du travail, voir si il peut y avoir... Enfin, ça sera pas forcément un groupe de soutien, mais voilà, tous les soutiens qu'on peut avoir, on peut voir avec son médecin traitant aussi qui peut nous accompagner dans sevrage tabagique. Il y a tous les XAPA. Ce sont des accueils en fait d'addictologie. Alors il n'y a pas de groupe de soutien, mais on fait voilà, ils sont là pour le sevrage tabagique, accompagner les personnes, tabac et tout ce qui a aussi co-consommation, parce que des fois on fume pas que du tabac, mais mm-hmm. c'est d'autres co-consommations. Alors parfois il y a de l'attente, c'est vrai, parce qu'il y a de moins en moins d'addictologues qui sont formés, il y a de moins en moins de places. Mais voilà, essayer de toute personne qui est médecin ou les infirmières tabacologues ou toute personne voilà, comme ça qui peut vous aider, essayez. Vous tapez forum tabac, groupe de soutien tabac, vous en aurez pas mal, ils sont tous très bien. Quoi.
Quelquefois, le soutien, il est dans la famille aussi, oui. dans le cercle d'amis, où on peut trouver dans son environnement proche des gens qui étaient fumeurs et qui ont arrêté et qui sont prêts, dès lors que la personne dit « je m'engage, je voudrais essayer d'arrêter de fumer », peuvent être là pour soutenir, aider, ne pas être dans la critique, être dans l'empathie, le soutien, et simplement, ça peut permettre de faciliter l'arrêt du tabac.
Quelquefois, la tentation aussi se trouve dans la famille.
Aussi.
Aussi. Effectivement, la tentation peut être dans la famille, mais quand on est, même si on rechute, des fois, dans le nouvel arrêt du tabac, on emmène d'autres personnes de la famille, mm-hmm. parce que justement, il y a une culpabilité qui s'installe sur ceux qui ont fait rechuter.
Et c'est le début d'un cercle vertueux.
Tout à fait.
On a commencé à l'évoquer par-ci, par-là, depuis le début de cet entretien. Qui veut bien me parler de l'initiative Hôpital sans tabac ?
Donc ça fait à peu près, Jocelyne, tu me corriges si je me trompe, 3 ans et demi, au moins, que nous avons commencé à lancer cette démarche. Si on resitue un petit peu quelques éléments de contexte, nous, donc Jocelyne l'a évoqué tout à l'heure, on était, on a eu quelques soucis liés au tabac, aux abords des bâtiments, mais également aussi dans les bâtiments et dans les locaux, puisque bah, Mondor, c'est, de par son architecture, c'est quand même une tour qui comporte 18 étages si on part du rez-de-chaussée bas. Mm-hmm. Et donc nous, on était confrontés à la problématique du tabac directement dans les escaliers, notamment, avec des odeurs très présentes à tous les étages, notamment aux étages supérieurs, la problématique des mégots qui a été évoquée juste avant. Ça, plus avec les enjeux environnementaux derrière, plus l'absence finalement d'initiatives groupées et collectives sur ce sujet. Tous ces éléments ont fait que on a décidé de se lancer dans un projet de hôpital sans tabac, donc lieu de santé sans tabac, donc en lien notamment avec le RESPAD, dont l'une des missions est d'accompagner les établissements de santé à lutter contre le tabac et à mettre en place pas mal d'actions. Mmh. Et donc on a commencé petit à petit à mettre quelques pièces du puzzle, à avancer étape par étape. Avec des actions vraiment de nature complètement variée, donc beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation auprès d'une part des professionnels, mais aussi des usagers, des patients, des visiteurs. Voilà, l'idée, c'est que la démarche, ça s'adresse vraiment à tout le monde et pas uniquement à une seule population. Donc voilà, et donc c'est avec cette idée-là, donc on a dû adapter à chaque fois nos actions selon la population cible que l'on veut atteindre, mais ça a été beaucoup de communication, d'actions sur le terrain. Voilà, des choses qui prennent du temps à se mettre en place, mais dont les effets, je pense, se ressentent, commencent à se faire ressentir, et on continue dans cette démarche-là. Et grâce à l'arrivée d'Audrey, on a pu vraiment impulser une nouvelle dynamique au quotidien, puisque donc de par sa qualité de chargée de mission et d'infirmière, elle peut accompagner au quotidien vraiment des professionnels qui veulent arrêter de fumer ou répondre à des questions. Elle fait beaucoup d'actions sur le terrain. Voilà, donc on fait beaucoup de choses, et notamment dans le cadre du mois sans tabac, on organise beaucoup d'actions, d'une part à Mont-d'Or, mais pas que, parce qu'on est, notre démarche, elle est celle du GHU, qui comporte donc plusieurs sites, et donc on essaye vraiment d'aller sur tous les sites, même si pour le coup la problématique du tabagisme intérieur, si je puis dire, était vraiment de base, particulièrement concentrée à Mont-d'Or. Mais maintenant, on a réussi, je pense, à faire beaucoup de progrès sur cette problématique d'environnement intérieur, et aussi d'autre part, on avait la question du règlement aussi, du règlement de l'hôpital, puisque maintenant il y a quand même des lois à respecter et on n'était pas complètement dans les clous sur ces plans-là. Donc voilà, on essaye au jour après jour de faire avancer les choses.
Puis c'est une vraie dynamique, hein. La gouvernance de l'hôpital est très impliquée dans la démarche. En plus, on a quand même un service de cancérologie, donc on est particulièrement sensible à ces questions. Donc il y a une vraie volonté de l'hôpital de travailler sur ces sujets-là. Et on a fait beaucoup de ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre des fumeurs. Mmh. Nous sommes des maraudeuses et des maraudeurs, où même notre directrice générale a contribué à une ou deux maraudes, et des directeurs des ressources humaines, du personnel médical, et les représentants des usagers également.
Oui, oui, j'ai participé à une maraude avec Madame Jouster au début, quand les maraudes ont commencé. Alors personnellement, je suis montée en ascenseur et on est redescendu par l'escalier à faire tous les étages, à ramasser les mégots et... je laissais Madame Jouster sermonner.
Alors, l'esprit de la maraude, c'est pas de sermonner. C'était pas. C'est pas de dire c'est pas bien, il faut pas. Voilà.
Ni de juger, mais c'est simplement d'informer.
C'est ça. L'idée de base, c'est quand même de. L'idée de base, c'est de sensibiliser d'abord et de dire certes, là, le règlement, on n'est pas dans les clous, mais au-delà de ça, si vous avez un souci, on peut vous accompagner. C'est d'essayer de donner des solutions, déjà d'informer, sensibiliser, donner des solutions concrètes pour répondre aux besoins des personnes que l'on rencontre.
Vous disiez, pardon Charlotte Lafont, que les actions se font ressentir, les actions de cette initiative Hôpital sans tabac. Est-ce que vous avez des exemples ?
Oh oui, très concrètement, déjà je pense que quand on passe dans les escaliers, on est quand même beaucoup moins dérangé par tous ces aspects odeur et présence de mégots, donc c'est pas encore parfait. Hein, voilà, faut pas... Après, d'autres actions vraiment concrètes, je pense que c'est le nombre de professionnels qu'Audrey... Alors déjà, d'une part, le nombre de personnes qui sont vraiment informées de la démarche et qui la soutiennent aussi. Donc là, on a fait des gros... Enfin, il y a beaucoup d'efforts de la part de communication pour vraiment sensibiliser tout le monde. Et ensuite, le nombre de professionnels qui ont sollicité Audrey à un moment ou à un autre, que ce soit de manière ponctuelle ou répétée. Donc tout ça, je pense que ça traduit vraiment des progrès.
À tel point qu'aujourd'hui, on peut organiser pour la deuxième année une course,
tout à
ce qu'on appelle la verticale de Mont-d'Or, une course dans les escaliers de Mont-d'Or où des professionnels font une course contre le monde dans les escaliers. L'année dernière, c'était qu'en individuel. Nous avons eu des sollicitations pour que cette course soit en relais. Cette année, nous aurons donc une course avec le 1er décembre avec des professionnels qui, au moins, font que ces escaliers redeviennent des environnements propres et sains dans lesquels on peut même courir.
Sur les 18 étages.
18 étages de l'hôpital rue Mont-d'Or. Est-ce que ces actions dépassent l'hôpital ?
Oui, on essaye maintenant de faire des actions hors les murs. Parce que, en fait, quand elle vous a parlé du RESPAD, il y a un audit qu'on fait en interne, qui est après en externe. Il y a trois niveaux. Il y a niveau bronze, niveau argent, niveau or. C'est vraiment des niveaux nationaux, et pour le niveau or, c'est international. Et donc, nous, on était au niveau bronze. Et là, on est passé au niveau argent parce qu'on commence à faire voilà, des actions hors les murs. Donc, on est venu aujourd'hui pour vous présenter. J'irai aussi par rapport à la mairie de Créteil faire un stand d'information et de prévention dans le cadre de Mois sans tabac. Mmh. On essaye aussi de faire au niveau de nos centres de loisirs, de faire au niveau de nos crèches des actions de sensibilisation, d'information.
L'université aussi.
Oui, aussi l'université. On va essayer d'aller aussi au niveau des IFSI pour que je puisse faire des temps de formation. Parce qu'en fait, une notion qui est assez importante et qu'on essaye de mettre en place sur tout le GHU, c'est d'avoir des infirmières, alors pas forcément tabacologues, mais des infirmières référentes qui fait que chaque patient qui viendra fumer sera pris en charge systématique. Enfin, chaque patient fumeur qui viendra hospitalisé sur l'hôpital sera pris en charge, ce qui n'est pas le cas encore. Et en fait, il y a le décret de 2016 qui permet aux infirmières, dès la première intention, donc pas besoin de médecin, de pouvoir prescrire des substituts nicotiniques et donc d'accompagner des patients fumeurs. Et donc, je vais essayer d'aller dans les ICI pour leur dire et pour pouvoir mettre en place dès le début, en fait, cet accompagnement-là pour que ça soit vraiment chaque patient fumeur qui arrive à l'hôpital soit pris en charge dans toute sa globalité.
Est-ce que dans la prévention, vous ciblez particulièrement les jeunes?
Non, pas vraiment.
Il n'y a pas de préférence?
Non, je cible tout le monde.
Et puis en plus, l'hôpital Henri Mondor n'est pas un hôpital avec
on n'a pas de service de pédiatrie. Ouais.
Mais bon, je dirais que après, on va quand même sur les crèches et sur les centres de loisirs, mais on s'adresse beaucoup plus aux parents et aux professionnels de ces services. Où déjà, il y a une grosse sensibilisation sur les fenêtres pour inviter les fumeurs éventuels de s'éloigner des fenêtres des crèches, de manière à ne pas polluer l'atmosphère et puis de ne pas donner non plus l'image. Donc il y a une question d'exemplarité qui est nécessaire et à mettre en valeur et à poursuivre.
Oui, parce qu'en fait, de toute façon, il y a une interdiction totale de fumer et de vapoter sur les établissements accueillants du jeune public. Et en fait, c'est vrai que c'est au niveau des abords, ils font ce travail-là d'éloigner aussi pour pouvoir permettre, en fait, comme la fumée, c'est pas juste « Ah, il y a un mur, je vais pas passer ».
Pour éviter... La fumée ne s'arrête pas aux frontières.
C'est ça.
Et c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre de la démarche hôpital sans tabac, c'est-à-dire que pour l'instant, on a commencé par l'intérieur, donc on a dit aux fumeurs, dans la mesure du possible, parce qu'on comprend aussi les contraintes d'emploi du temps, etc. L'idée, c'est de sortir, de sortir. Et maintenant, là, on est en train de dire, maintenant que vous êtes dehors, déjà, c'est interdit de fumer sous des lieux couverts, donc c'est-à-dire même si on est sous un toiton, normalement, c'est interdit. Donc maintenant, on recule, on sort encore un peu plus loin jusqu'au lieu non couvert, et à terme, c'est de sortir au-delà de la porte d'entrée de Mondor. C'est-à-dire que nous, notre projet idéal, c'est-à-dire que dès qu'on passe la porte, il n'y a plus du tout de cigarettes, ni dans l'air, ni par terre, ni à la main de quiconque.
C'est pour ça qu'on tolère le vapotage pour des fumeurs qui seraient vraiment addicts et qui ne pourraient pas se passer de nicotine pendant leur temps de travail, ou qui ne supporteraient pas des patchs en parallèle. Puisque, donc pour nous, le vapotage, c'est une solution pour ne pas fumer à l'hôpital, au moins sur le temps où on est à l'hôpital.
Quels sont concrètement vos prochains projets dans le cadre de cette initiative? Donc il y a la course du 1er décembre?
Oui, c'est la clôture de notre mois sans tabac sur le GHU. Les prochains projets, donc ça sera tout ce qui est communication extérieure. On va commencer tout ce qui est flocage de trottoirs. On a déjà commencé par des totems d'information pour préciser qu'on rentrait sur des lieux de santé sans tabac. On a installé aussi des cendriers votatifs. Donc en fait, on prend son mégot et on vote sur une question qui est posée. On les a mis aux abords des entrées. Ça sera de faire des tests de zones de tolérance fumeur pour pouvoir faire l'interdiction totale de fumer à l'extérieur et utiliser ces zones de tolérance fumeur. Et l'objectif global, c'est de passer de niveau or. Là, on passe niveau argent, on attend notre certification, et ce serait passer de niveau or d'ici 2024 à 2025.
Et on continue, bien sûr, toutes nos actions déjà commencées. On fait aussi régulièrement des enquêtes, lieu de santé sans tabac, pour aussi avoir l'avis des professionnels du GH, puisqu'on ne peut pas faire des actions. Enfin, c'est vraiment un effort collectif, et nous, on a aussi besoin d'avoir leurs avis, on s'appuie aussi dessus, d'avoir des retours pour pouvoir adapter nos actions et notre ligne de conduite. Donc,
Après, dans les gros projets aussi, c'est que nous, on est un GHU, mais on est rattaché à la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il y a un copil aussi, hôpital sans tabac, qui se crée sur tous les GHU. Donc voilà, on est en cohorte, on parle. Et donc, c'est en train de se mettre en place aussi tout ce qui est communication, information, interdiction de fumée à l'extérieur, intérieur. Donc voilà, on a signé la charte lieu de santé sans tabac aussi le 2 décembre de l'année dernière. Mmh. Donc voilà, ce sont les gros projets. C'est porté par notre gouvernance, c'est porté par la PHP, c'est porté par le ministère de la Santé. C'est vraiment une demande faite par le ministère de la Santé qu'on soit voilà, non-fumeur. Donc on met en place toutes ces actions-là. C'est pour ça qu'on veut faire les formations d'infirmières pour qu'elles puissent prendre, parce que les médecins, ils ont déjà beaucoup de travail. On sait que voilà, c'est compliqué au niveau médecin. Donc on essaie de toucher, parce qu'il y a les kinés aussi qui peuvent prescrire par rapport à ce décret-là. Donc on essaie de toucher voilà, toutes ces personnes qui pourraient prescrire en première intention pour qu'au moins il y ait une prise en charge systématique des patients fumeurs.
Et cette initiative Hôpital sans tabac est intimement liée effectivement au mois sans tabac.
Alors oui, en fait, on l'utilise. En fait, ça, c'est deux choses différentes, mais on s'inscrit dans Mois sans tabac pour pouvoir, en fait, c'est vraiment le Mois sans tabac national reconnu.
C'est un temps fort.
C'est voilà. Ça. On intègre le Mois sans tabac à notre dynamique Hôpital sans tabac.
D'accord. Mais donc, l'Hôpital sans tabac existe toute l'année.
Oui,
ah, tout à fait.
Contrairement au Mois sans tabac.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Bah, moi, on m'a embauché que pour ça. J'ai vraiment chargé de mission Hôpital sans tabac et j'ai développement durable aussi maintenant parce que voilà, les deux sont liés, mais moi, tout mon temps de travail, c'est sur Hôpital sans tabac, donc oui, ça demande du temps.
Et Audrey a été financée dans le cadre d'un appel à projet auquel on a répondu au niveau de l'ARS sur des fonds addiction. Donc, l'hôpital a été subventionné sur 3 ans, ce qui nous permet de faire tous ces éléments de communication, mais surtout de financer l'emploi d'Audrey, au moins pérennisé jusqu'à la fin de l'année. Et l'hôpital ayant mesuré tout l'intérêt de cette activité et toute l'importance, pérennisera cette démarche-là, même si aujourd'hui Audrey a le développement durable qui rentre aussi dans son portefeuille, puisqu'il y a des choses qui sont intimement liées.
Et nous allons continuer à parler de tout ça dans un instant. Audrey Dangeos, Charlotte Lafont, Jocelyne Jouster, Suzette Fernandez, je vais partager ici avec vous un message vocal que je viens de recevoir de la part d'un auditeur.
Bonjour Didier, bonjour JVT. En fait, je vous conter un petit peu ma histoire, si vite fait, parce que j'ai entendu le parler. J'étais fumeur pendant 25 ans. Ça fait 10 ans que je ne fume plus. Et je commençais tôt, je commençais avec la jeunesse à fumer, machin, nanana. Il y avait un moment, mon corps, il a rejeté la cigarette. En fait, j'ai eu la marre de fumer. Et j'ai essayé de tout, de patchs, de bonbons, etc. Et c'était avec la cigarette électronique que j'ai réussi à réduire la quantité de nicotine que je jetais dedans. Donc j'étais à un moment, au bout de 6 mois, j'étais à zéro. J'étais fier moi-même et je m'arrêtais. Il y avait un jour que j'ai essayé d'arrêter sans finir à zéro. Il était à 2 mg de nicotine. Et je paniquais, j'ai entré au travail plus tôt et tout, parce qu'à la maison, j'ai entré à la maison plus tôt parce qu'il me manquait la nicotine. Et après, bah, la suite, voilà, je repris à nouveau, pendant encore 15 jours, jusqu'au moment que j'étais à 0-0 complètement. Et c'est parti. Depuis 10 ans, je touche plus aux cigarettes, je suis content, voilà. Je veux partager ma expérience comme ancien fumeur, si vous voulez. Voilà.
Une réaction?
Félicitations,
bravo.
Félicitations.
Bravo,
vraiment. Oui, mais c'est en même temps, voilà, c'est ces exemples-là qu'il faut qu'on valorise. La pub Moi sans tabac le dit bien, vous n'étiez pas tout seul quand vous avez commencé à fumer. Hein. On a tous fait ça dans un environnement un peu joyeux, festif, souvent à l'adolescence. On n'est pas tout seul quand on arrête de fumer et on a plein d'anciens fumeurs qui sont prêts à soutenir, ou de fumeurs qui se disent aussi en même temps, si on y va tous les deux cette année ensemble, ça aussi, ça peut être des bonnes expériences de se challenger. C'est un peu ce que l'on a avec le groupe de fumeurs qui s'engagent pendant le mois sans tabac. Mm-hmm. C'est un peu une forme de challenge les uns avec les autres pour s'aider mutuellement.
Est-ce que c'est cette fumée va me faire prendre du poids, demande une auditrice.
Ça peut, en fait, c'est si... vous ressentez les effets de manque, en fait, votre cerveau va vous faire compenser par autre chose. Et donc, c'est là où on peut prendre du poids, parce qu'on va compenser par grignoter, sans s'en rendre compte, manger un peu plus et tout. Si, par exemple, vous êtes bien accompagné, que ce soit par une famille, la famille ou autre, ou les substituts nicotiniques ou la cigarette électronique, généralement, non, on prend 1 voire 2 kilos, mais c'est très rare, dans de très rares cas.
Mais en même temps, on va remanger, mais on va remanger mieux, parce qu'on va redécouvrir les saveurs, on va redécouvrir les odeurs, on va redécouvrir un plaisir de manger que l'on perd pendant qu'on fume, sans s'en apercevoir.
Certaines personnes ne supportent pas le patch, comment faire ?
C'est la colle du patch qu'elle ne supporte pas. En fait, c'est ça qui fait une irritation. Alors souvent, on monte le bras pour le patch, mais on peut le mettre partout sur le corps, et d'ailleurs, il faut alterner les zones. Et pour les personnes qui réagissent à la colle, soit mettre un Tegaderm, donc c'est une espèce de collant transparent qu'on met quand, si vous avez déjà eu des perfusions ou autres, ou sinon de mettre sous le talon. Là, il n'y a pas de réaction allergique à la colle.
Pour revenir à l'initiative Hôpital sans tabac, Charlotte Lafont, est-ce que vous aimeriez vous adresser à des personnes en particulier pour obtenir des soutiens?
Ça dépend de quel type de soutien dont on a besoin. Donc, comme l'avait dit Jocelyne, donc, on avait répondu par exemple à un appel à projet voilà, pour avoir des soutiens voilà, financiers. Et ensuite, nous, de toute façon, on ne travaille clairement pas de façon individuelle. Forcément, on a plein de partenaires. Donc, que ce soit par exemple les mutuelles, donc là, Audrey pourra aussi en dire un mot, qui nous accompagne tout au long du mois sans tabac, par exemple, pour faire des actions. Ensuite, à qui on peut s'adresser. De toute façon, il faut qu'on s'adresse à l'ensemble aussi. Nous, intra-GH, c'est aussi à l'ensemble des services, l'ensemble des équipes, de professionnels, aux associations de patients aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail collectif. Et...
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas une culture de l'appel au mécénat.
Ou voilà.
C'est peut-être un défaut de notre part, mais
c'est
comme ça. Par contre, effectivement, je pense, on fait, à l'occasion de notre course, la verticale de Mont-d'Or, on aime bien offrir des récompenses. Et là, par défaut de budget, on sollicite effectivement des partenaires qui pourraient nous proposer des lots. Ouais. Donc actuellement, effectivement, les mutuelles complémentaires, on a eu
le MAC de Créteil aussi qui nous a financé voilà, des lots pour les gagnants. Uh-huh. On a aussi le cinéma UGC de Créteil qui va nous financer des places. Et on a aussi notre LAPSAP, c'est l'association sportive du GHU voilà, qui va financer aussi des lots. Donc voilà, moi j'essaie de toucher tout ce qui est intersport, au sport. Enfin, on appelle en fonction des projets. Mais moi, si j'ai un appel à faire, c'est si vous avez des idées un peu innovantes. Parce que à chaque fois, on dit fumée tube, bon, tout le monde le sait, c'est marqué sur les paquets. Donc j'essaie d'amener les informations d'une manière innovante. Donc des fois, je fais voilà, des escape games tabac. Ça marche plutôt bien. C'est vraiment ludique, c'est dans l'air du temps. Donc voilà, si vous avez des idées comme ça, des entreprises, des sociétés à faire, enfin vous avez des choses un peu dire innovantes, nouvelles sur le tabac, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des contacts, il n'y a pas de souci, je mettrai en place sur le GH, on est friands de ça pour pouvoir amener en fait de manière nouvelle les informations et fédérer de plus en plus de personnes.
Et faut un contact.
On a une adresse mail.
Oui, moi ce serait audrey.dangerose@aphp.fr. Après, je relayerai. Il n'y a pas de souci. Parce que notre adresse mail générique est un peu compliquée. Les gens ne vont pas retenir. Mais voilà, l'APHP, c'est le prénom, le nom et aphp.fr.
On a testé un speed dating récemment.
Lundi dernier.
On n'a pas eu le succès escompté.
On parle toujours de l'hôpital sans tabac. Hein.
Oui. du moins sans tabac. Dans l'hôpital sans tabac.
C'est comme l'escape game. Hein. C'est
focus tabac.
C'est orienté, toutes nos démarches sont vraiment orientées autour du tabac. Mais,
enfin, de l'arrêt du tabac d'ailleurs.
Bon, voilà. Et on recherche à innover et à attirer par d'autres biais que les réseaux classiques. Quoi.
Est-ce que l'appel au mécénat est envisageable à l'avenir?
Sur des actions ponctuelles, on peut. Enfin, ce qu'on fait déjà, alors, pas forcément sur le mécénat, mais. Sur des actions ponctuelles, oui, je pense qu'on aura plus facilité à aller pour pouvoir financer soit un projet qu'on voudrait mettre en place ou là, on va essayer de répondre aussi aux appels à projets de la PHP pour nos zones de tolérance fumeurs. Enfin, voilà, quand on a des gros projets comme ça, mais qu'il n'y a pas forcément de budget spécifique, on peut faire des appels comme ça.
Il nous reste maintenant 3 minutes. On peut peut-être dire un mot sur le mois sans tabac qu'on évoque sans évoquer depuis tout à l'heure.
Ben, le mois sans tabac, j'invite tout le monde à s'inscrire. C'est le mois de novembre. Voilà. Il n'y a pas de. Même si vous fumez depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 10 jours, il n'y a pas de moment pour s'arrêter. Dès que vous décidez d'arrêter, arrêtez. Comme on le dit depuis le début, vous n'avez pas commencé tout seul, donc n'arrêtez pas tout seul. Au bout de 4 semaines, les effets, enfin, les manques de le manque s'enlève. Être accompagné, c'est bien. Il y a les applications, il y a les forums. Et tester. Souvent, on me dit oui, mais ça va pas marcher, mais ça va pas. Bah, essayez. Vous avez déjà fait la première démarche, c'est de vous informer, d'être arrêté, d'avoir posé les questions. Donc, continuez, et puis vous verrez bien, ça vous fera pas de mal.
Vraiment, on peut essayer, arrêter et recommencer.
Oui. Ça. Après, voilà, de toute façon, quand on s'arrête et qu'on recommence, généralement, on dit que des personnes qui ont déjà arrêté de fumer, elles ont 5 fois plus de chances de s'arrêter définitivement. Donc, si c'était pas là, bah, de continuer. Et de toute façon, bah, dès qu'il y aura une autre petite possibilité, bah, refaites-le, essayez.
C'est ça. Et vous pouvez faire votre mois sans tabac en dehors du mois de novembre. Ça peut marcher avec n'importe quel mois de l'année.
Et de toute façon, le mois de novembre revient tous les ans. Donc, c'est ça. Tous les ans, il y a l'occasion de recommencer. Vous pouvez vous joindre aux 152 229 inscrits pour le moment sur le site internet moi-sans-tabac.tabac-info-service.fr. C'est le site du mois sans tabac et vous inscrire et commencer à vous y informer.
Tout à fait.
Merci beaucoup Audrey Dangereau, chargée de projet, Charlotte Lafont, médecin de santé publique, Jocelyne Jouster, responsable expérience patient, responsabilité sociale, environnement et développement durable, et Suzette Fernandez, représentante des usagers, collaboratrice santé de Radio Alpha. Merci beaucoup d'avoir passé une heure ici en notre compagnie pour pouvoir nous parler de l'initiative Hôpital sans tabac, du mois sans tabac et pour répondre aux questions de nos auditrices et auditeurs sur le tabagisme.
Merci.
Merci à vous.
Merci.